Hi, I'm Nick.
Hi, I'm Thomas.
And this is the Unbossing Podcast.
A show about unleashing the full potential of every organization.
Hi guys, would you like to have this inspiration and this magic between Nick and myself daily? Please follow us on Instagram, Nick the Unbosser, or me, Thomas Hubuch, or best case both, or follow us on LinkedIn and you have it daily. If you are a CEO, if you are an employee wanting to find back your passion, or if you are a potential partner wanting to join the Unbossing movement, do it and follow us.
Okay, Thomas, we have an unbossing legend on the podcast today. Jean-François has been unbossing since 1983. Fantastic proof that unbossing is nothing new. It's doing business of common sense. And some people have been doing it for many years. So welcome to the podcast, Jean-François. Maybe for our listeners, we are going to talk in English. We're going to ask the question in English. And Jean-François is going to respond in French. And then I'm going to translate the answers of Jean-François in English as well. And then we come with a following question. Okay, Thomas, anything from your side before we dive in to the conversation?
Yes, because I am so curious, Jean-François, on you and your company. So could you please introduce you and your company shortly, what you are doing, where you are based, and what you're doing for this world?
Okay. On y va?
On y va. Alors d'abord, une petite introduction de Favi et de vous comme personne aussi.
Alors, Favi est une entreprise qui a été créée en 1947 pour faire des siphons de lavabo. Parce qu'on installait le tout à l'égout et qu'il y avait des mauvaises odeurs qui remontaient. Tu traduis?
Ouais, d'abord, tu peux faire toute l'explication et je traduis après.
D'accord. Et moi, j'ai pris la direction générale en 1983. Et en 83, en un an, on a tout changé. On est parti du contrôle pour aller vers la confiance. Et ça a tout changé. C'est-à-dire que, alors qu'on depuis, on gagnait 2 à 3% du chiffre d'affaires en cash flow, on est rapidement passé en moins d'un an à 20-25% pendant 30 ans de cash flow. On s'est diversifié. Partant des siphons de lavabo, on a fourni jusqu'à 60% du marché automobile européen. On s'est diversifié dans les moteurs électriques à haut rendement. C'est nous qui avons fait tous les prototypes, les pré-séries et les premières séries de Tesla. Après, on a inventé un nuage qui tue les bactéries, un autre qui tue la salmonelle pour l'alimentaire et la santé. Et on est passé de 70 à 700 personnes. Et on a fait 20 à 25% de cash flow pendant 30 ans, 35 ans, sans jamais augmenter les prix de vente depuis 1984.
Wow.
Et en ayant tous les grands prix qualité.
OK. Alors là, je vais traduire. So, the company was originally founded in 1947. So, it's a rather old company already. And Jean-François took over in 1983 and immediately installed the concept of trust in the organization and basically in 1 year changed the entire internal workings of the organization. This has resulted in the past 30 years for an annual growth in cash flow of 25% and also for huge diversification of the products that they make. So today, Favi is specialized in pressure die casting, And they deliver to Renault groups in the automotive sector, but also, if I understood correctly, to Tesla and to the healthcare sector. So huge diversification, and they basically won every quality award that you can win in their business.
It's amazing. And of course, Jean-François, one question immediately comes up. Why? Why did you make immediately all these changes then? What was the reason why you had to do that?
Alors, la raison, c'est que j'ai fait mon service militaire, je devais faire la guerre. Tous les 40 ans, on a fait une guerre hein, dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu Napoléon, il y a eu 1870, 1840, je vais faire la guerre en 80. Donc, j'ai une culture officier de réserve, donc j'ai une culture militaire. Donc, déjà, ça m'a donné quelque chose. Après, il s'avère qu'en 1968, je découvre que le Japon est deuxième puissance mondiale. Le Japon, qui est dont la surface est la moitié du Texas, et qui a pris 600 000 tonnes de bombes sur la tête, dont deux bombes atomiques, deuxième puissance mondiale. Et je m'interroge. Et là, je découvre Soji Shiba, Kawakita, Matsushita, et je me fais une culture des outils japonais pour comprendre pourquoi les Japonais peuvent être deuxième puissance mondiale. Et ça, ça fait partie de mon background. Et notamment, j'ai rencontré un certain Soji Shiba, qui m'a pris en amitié, et ça a été mon maître à penser. Et Soji Shiba dit, il faut laisser des chances au hasard. Il ne faut rien prévoir. Il faut vivre dans des présents successifs, pas de budget, pas de planning. La météorologie, en France, il y a 10 satellites, 550 stations au sol, et il ne prévoit rien à plus de 3 semaines. Donc toute prévision à une semaine ou à un an ou à 10 ans, c'est de la bêtise. Et Shiba dit, il faut laisser les chances au hasard, et le hasard, il faut aller écouter les ouvriers. Parce que celui qui fait, qui sait. Hein? Grosso modo, j'ai découvert le Kaizen. Kai, performance, Zen, bonheur. La performance par le bonheur. Et dans le Kaizen, on dit c'est celui qui fait, qui sait. Voilà mon background.
Ok, je vais traduire. Alors, d'abord, l'observation qu'on a presque tous les 40 ans des guerres dans le monde. Et en des années 70, le japonais. So I'm talking in French now. Sorry, need to translate in English. So first and foremost, the observation that every 40 years we had a war in the world, and in the 70s, Jean-François went to Japan because he was super interested in how they became the second most powerful power in the world. And there he got familiar with the Japanese culture. And I don't want to pronounce the name because I didn't understand it very well. So Shima, I think, yeah. But he met someone who became kind of his mentor. And his advice was that you need to be able to let go things in life and you need to be able to live in the moment. So don't plan, don't make any budget longer for 1 year because it doesn't make any sense. If you look at the weather forecasts, there are so many measurement systems to measure the weather in the country. And still, we are not able to predict the weather in long term, longer term than a couple of days or a couple of weeks. So why the hell would we in a company try to predict what's going to happen in the term of 1 year? The opposite. So instead, we should listen to our employees. They know what they're doing, and we should give them the trust to do what they're doing. And the term that came up was Kaizen, which means, if I understood correctly, Jean-François, Kai is performance and Zen is employee, or is it the other way around?
No, Zen is happiness.
Zen happiness. Is happiness. Yeah.
happiness. It's performance through happiness.
Yeah, performance through happiness.
Not performance through control.
Yeah.
No more.
Cool. And Nick, can you believe it? That yesterday we had this inspiring talk, you and I, about the yearly budgeting process.
Yes.
And now we have Jean-François here saying it much better than you and I could ever say it. It's amazing.
Yep. Okay, so Jean-François, you said you changed everything in the first year.
Pour finir. L'autre chose. Il n'y a pas de méthode de management. Tous les hommes sont différents, toutes les entreprises sont différentes. Il faut donc que le patron innove, il ne peut pas copier, il doit innover. Innover, c'est trouver quelque chose que l'on n'a pas cherché. Et pour trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché, il faut laisser des chances au hasard. Ça, c'est le grand message de Shiba. Laisser des chances au hasard. Si Darwin, qui était pasteur, son père était pasteur, Darwin voulait être pasteur. Il était convaincu que la Terre avait été faite 6000 ans avant Jésus-Christ et par Dieu, et que la Terre était exactement comme Dieu l'avait fait. Et le hasard a fait qu'il a participé à une expédition que le roi d'Angleterre finançait pour vérifier des voies maritimes. Et là, il a vu des eaux énormes, énormes. Il s'est dit, mais elles sont où ces grosses bêtes ? Et parce qu'elles ne sont plus là. Il s'est dit, ben, elles étaient trop grosses pour monter sur l'arche de Noé. Et c'est pour ça que Dieu les a laissées. Et c'est suite à des signaux comme ça, il a compris qu'il y avait une évolution. S'il était resté dans son bureau, s'il n'a pas laissé les chances au hasard, laisser les chances au hasard. Ça, c'est le maître mot de Shiba. Hein? Il n'aurait pas fait ça. Traduit ça.
OK, so... I'm not sure what the right pronunciation of hazard is. Risks?
No, le hasard, c'est ce qui arrive, le hasard.
Ah, the coincidence.
Coincidence.
Yeah. So Jean-François refers to the story of Darwin, that he was the son of a priest and he wanted to become a priest as well. And he believed and he knew the story of God and the Ark of Noah. And then he went on his mission with, I think it was the king of, supported by the king of England. Yeah. And it's, in fact, by coincidence, by observing what he saw there, that he understood that it was not God who arranged everything, but it was the evolution theory, that it was all part of evolution. And a similar approach or vision is what Jean-François is evangelizing for management, that there's not one management method because everyone is different. And there's also, you can't copy paste anything. We often say, We see so many companies copy pasting the Spotify model, and we say, guys, what are you doing? I mean, you have to reinvent it yourself. You have to innovate as a manager to see what works for your specific context and your specific unique employees.
And a very true, Nick. And the central sentence of Jean-François, innover, c'est trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché.
Voilà.
Innovation is finding something you were not looking for.
Mm-hmm.
How amazing is this sentence, Nick?
Mm-hmm.
Exactly.
And that reminds me, Jean-François, of what? But that was long in the past. Huge companies, General Electric, for example, used to hire people, scientists for the laboratory. And then they said, this is your office. This is your laboratory. Go and invent something. And I was immediately taken back to that when I was reading it years ago, when you say innovation is to find something you were not looking for. That's powerful.
That's right. Mm-hmm. Alors, compte tenu de cette culture, le service militaire, les militaires m'ont appris plein de choses. Hein? La force des objectifs subjectifs. Les objectifs militaires sont toujours subjectifs. On ne dit pas on va envahir ce pays pour prendre 1 million de kilomètres carrés. On dit, Hitler disait, Le peuple allemand a besoin d'un Lebensraum, un espace vital. Il n'a pas dit on va attaquer la Pologne. Il a dit au nom de l'espace vital. D'accord ? Mussolini n'a pas dit on va aller en Libye. Il a dit il faut qu'on va refaire l'Empire romain. C'est-à-dire que les militaires ont toujours des objectifs subjectifs, pas chiffrés. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Quand je suis arrivé dans cette usine, j'ai arrêté toutes les réunions. J'ai arrêté tout le reporting. Et j'ai tourné dans l'usine en permanence tous les jours. Et c'est parce que je tournais dans l'usine que j'ai vu en septembre, moi j'ai repris la direction de l'usine au mois de septembre 83. Et vers le fin septembre, je vois une maman qui arrive en retard parce que sa petite fille avait de la fièvre et qu'elle attendait le médecin. Et je vois qu'on la sanctionne. Je réunis immédiatement toute l'usine, immédiatement. Et je leur dis, vous vous rendez compte, on sanctionne une maman qui a un enfant malade. Elle ne fait pas exprès d'arriver en retard. Et je leur dis, vous n'êtes pas payé pour un horaire. Vous êtes payé pour l'amour du client qui reçoit vos pièces. Si le client qui reçoit vos pièces aime vos pièces, il donnera son argent pour qu'on reste dans le village.
Jean-François, sorry, oui. Can we just stop again because this is another sentence for eternity. Could you repeat it? J'ai payé pour l'amour des clients. Could you please shortly repeat it, Jean-François?
Non, non. Vous êtes payé pour l'amour du client. For the love of the customer. If the customer loves your pieces, he will give you us his money. And thanks to this money, we can stay on in our village. Le but, c'est de rester dans le village. Le moyen, c'est l'argent du client. Le moyen, c'est l'amour du client.
I'll translate. So first and foremost, the observation that in the military, they never use goals by numbers. So always subjective goals, like we want to reestablish the Roman Empire. Never there is, what's the opposite of subjective? I would say, numeric goals. So what did Jean-François do when he started in the company, when he took over the management? He immediately stopped all meetings. He immediately stopped all reporting. He was 24/7 in the factory, just walking around and observing and seeing what happens. And then one time a woman was late because her daughter had a fever. And he saw that she was punished for it, for being late. And he immediately organized an all-employee meeting in the factory and said, guys, this is not the behavior that we need to support. We need to love our employees so that they make products that our customers love, so that our customers pay. And the money we use, we have to sustain and support our village and our community. Super interesting. And what was the quote you love, Thomas?
You said it already. We are paid by the love of the customer, and it's the next just beautiful one. And Nick, now I have to know, and Jean-François, I have to know. Because I know France a little bit. How did your people react? Were there some people in your company who said, Jean-François, he's crazy? Jean-François, il est fou.
Non, parce que... attends, je vais jusqu'au bout. Donc, je dis aux ouvriers, vous n'êtes pas payés pour un horaire. Vous êtes payés pour faire des pièces bonnes, pour que le client nous aime, pour qu'on reste dans le village. Retenez ça. Le but de l'entreprise, c'est de rester dans le village. Pour rester dans le village, il faut l'argent du client. L'argent n'est pas le but de l'entreprise. L'argent, c'est comme la respiration. Mmh. On ne vit pas pour respirer. Et si on ne respire pas, on meurt tout de suite. L'argent, c'est le but, c'est pas le but de l'entreprise. Hein. C'est le moyen de la durée. Le but de l'entreprise, c'est durer, comme vous, comme pour un chien, comme pour un arbre, on veut durer. D'accord ? Et après, je leur dis... Ce qu'il faudrait, c'est que pour que le client nous aime, il faudrait qu'on ne livre plus jamais en retard. On n'a plus jamais livré en retard. Et je leur dis, si on veut que le client nous aime, on était toute l'usine réunie, hein, si le client veut que le client nous aime, il faudrait qu'on n'augmente plus jamais nos prix de vente. Et on n'a plus jamais augmenté nos prix de vente pendant 35 ans. Et je leur dis, écoutez, à l'époque, la concurrence était la Tunisie. La Chine n'existait pas encore en 1983. Et je leur dis, nos mains sont trop chères. On ne travaillait pas en trois équipes. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille en trois équipes pour pouvoir baisser nos prix de vente. Et là, il y a un ouvrier qui me dit, d'accord, mais nos mains sont toujours plus chères qu'en Tunisie. Et nos cerveaux, pourquoi on ne met pas les bureaux d'études en trois équipes? Et là, je leur dis, est-ce que vous êtes d'accord tous? Parce qu'à chaque fois, je demandais l'accord de tout le monde pour qu'on mette le bureau d'études en trois équipes. Oui, oui, oui. Et ça a été une révolution. Je vais vous expliquer pourquoi, pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'avère qu'on s'est développé dans l'automobile. L'automobile, généralement, quand il fait un appel d'offres, il laisse trois mois pour répondre. Et nous, on répondait au bout d'un mois. Quand vous êtes le premier à répondre, forcément, votre dossier est regardé en détail. Qui plus est, j'avais dit par jeu, essayez d'être en dessous du prix objectif fixé par le client. Quand vous répondez deux mois avant tout le monde, et vous êtes en dessous du prix objectif, vous avez toutes les affaires que vous voulez. Et la deuxième chose intelligente, c'est que, vous verrez, après j'ai exprimé les contrôleurs, les régleurs, les contremaîtres, les chefs d'équipe, et à chaque fois, ces gens-là, je leur proposais le bureau d'études, ce qui était valorisant. Ce qui fait qu'on a eu très vite un bureau d'études qui, non seulement, était plus rapide que tout le monde, mais avait plus d'idées, parce que quand vous avez trois personnes qui étudient la même pièce, ça multiplie par 10 la créativité. Mais ça, ce n'est pas mon idée. La plupart des idées, ça a été le terrain ou les ouvriers qui me les ont données.
Mm-hmm. OK. So, again, the repetition that the goal is not, well, the goal is to make the customer love you, because then the customer pays for your products, and with that money, you can sustain and support
the village. The real goal is to stay in our village.
Stay in the village. And thanks for reminding me of the great quote of money is like oxygen. You need oxygen to live, but you don't live to breathe. Customer love also meant no delays anymore on delivering the products to the customer. And customer love, I think, was a strategic choice also of you guys, is like, we need to keep our prices the same. And if I understood correctly, you didn't change your prices over 30 years. And then you restructured basically the organization in three teams, which was kind of led to a revolution, because in the auto industry, typically you get a request for a proposal and you have 3 months to reply. But because you organize yourself in three themes, you were able to respond in 1 month. And you also responded with a price which was lower than what the objective price of the requested price of the customer was. And so you attracted many deals. And the typical former controllers and team chefs of the factory are now in those three teams, but they also form this bureau d'études, so like a study group. So they very fast gained a lot of knowledge about the products and the market, and were very good at answering these requests for proposals better than the competition. And lastly, most of the ideas that Jean-François is sharing here are not his ideas. They're all ideas coming from the employees while trying to do in the field whatever is needed to make the customer love you.
It's amazing, Nick. And I immediately have to think of which podcast Thijs Glass dedicates. And the direct customer teams with the direct immediate contact, and where the speed of proposals, the speed of deals, and the speed of reaction is so much faster. Just saying, have to think of that.
Alors, après, à l'époque, il n'y avait qu'un seul Telex. Le Telex était dans les bureaux. Les commandes arrivaient dans les bureaux et ils mettaient 3 jours à descendre les commandes. Et là, en même temps, je dis au service entretien, prenez le téléphone dans les bureaux, vous le mettez au milieu des machines. Et je dis aux ouvriers, il n'y a plus de pointage, on ne contrôle plus le pointage, on ne contrôle plus les horaires, on démonte les horloges, on démonte les sonneries, vous ferez l'horaire que vous voulez, vous regarderez les commandes vous-même. En fonction des commandes, vous déciderez qui est dans quelle équipe, les horaires que vous faites. Et je dis aux dames, je sais que les mamans, les dames ont deux vies. Si vous voulez, vous faites 39 heures, à l'époque on faisait 45 heures. Vous faites 45 heures comme vous voulez. Si vous voulez, vous ne travaillez pas le vendredi après-midi pour vous occuper de la maison et des choses comme ça. Donc vous êtes libre de l'horaire que vous voulez. Je vous fais confiance, il n'y a plus aucun contrôle. On a gagné une demi-heure de temps de travail. Et puis après, c'est pour ça qu'on n'a plus jamais été en retard. Quand il y avait du travail, ben, il restait plus longtemps. Quand il n'y avait pas de travail, ben, ils partaient puis rentraient chez eux. Hein, ça, ça a été une petite révolution, cette histoire-là. Et là, le cash flow a commencé à monter. Parce qu'on a gagné une demi-heure de temps de travail, et les gens étant heureux, parce que libres de leur horaire, étaient plus productifs. Ça, c'était la première pierre du guet. Alors, l'histoire du Pierre Duguay. Shiba dit, je vous expliquerai juste après, traduisez déjà ça. Ça, c'est ce que, ça, la première pierre du guet. Ça. La première pierre du guet, ça a été de ôter la référence au temps. On n'est pas payé pour un horaire, on est payé pour faire l'amour d'un client.
Mm-hmm. Une petite question, Jean-François. Alors, il y avait un Telex, c'était un bureau où tous les requests des clients arrivaient.
Toutes les commandes arrivaient.
Toutes les commandes, et tu as éliminé ce bureau et tu as mis les commandes dans l'usine, en fait.
Ouais. Bon, ouais, pour les
ouvriers. OK. So, there used to be one desk and people sitting there, obviously, who were responsible. One point where all the requests for orders came in, and it was their responsibility then to dispatch these orders across the factory. Now, Jean-François eliminated that central desk, and he started directly putting the requests for orders in the different operational teams, in the mini enterprises, so that they became visible. And if there were a lot of requests for orders, there was a lot of work and people stayed longer to work. If there were less orders, then they were free to go, because Jean-François stopped all the control. He said, you are the employees, you choose your hours. I understand that if you're a mother, you have two lives to take care of. So in weeks where you can get the work done in 35 hours, you work 35 hours. If there's more orders, you work longer. And this was really the big change that resulted in the first increases in cash flow, because he saw that people started to become more happy thanks to this freedom. And he said, you're not paid for the hour, you're paid to make our customers love us.
Alors ça, c'est la première pierre du guet. Alors, c'est quoi cette histoire de Pierre Duguay? C'est Kawakita qui dit ça. Kawakita dit, si tu veux faire traverser la rivière à ta troupe, fais-les rêver sur la beauté de l'autre rive.
Fais-les rêver de quoi?
Sur la beauté, comme c'est beau de l'autre côté,
sur
l'autre rive. Quand tout le monde rêve de traverser, ne fais pas un pont. Parce que si tu fais un pont, tu arriveras deux ans là où tu as décidé d'arriver. Or, là où tu as décidé d'arriver, ce n'est peut-être pas là où il faut que tu arrives. Laisse des chances au hasard. Et le hasard va te donner une première pierre du guet. Et la première pierre du guet, nous, c'est ça, c'est ce hasard-là. Le hasard a fait que je vois une maman qui arrive en retard, je supprime le pointage, c'est la première pierre du guet. D'accord ? La deuxième pierre du guet, toujours dans mes tours d'usine, je découvre qu'il y a une prime de chaleur en fonderie. En fonderie, nous, la température, le métal est à 1000 degrés. Et à l'époque, il n'y avait pas de captation de fumée. Ça n'existait pas en 83. Donc, il faisait très chaud. Donc, on donnait une prime de chaleur aux fondeurs. Je réunis l'usine immédiatement. J'ai toujours réuni l'usine. Et je leur dis, mais enfin, c'est idiot. C'est pas parce qu'on donne de l'argent qu'il fait moins chaud. Une prime, c'est un os qu'on donne à un chien. Et là, on débat toute la journée. Et on décide de prendre ce que chacun a eu comme prime les deux dernières années, y compris pour moi, de le mettre dans le salaire. Il n'y aurait plus de prime individuelle, il n'y aurait plus d'objectifs individuels. Et je leur dis, maintenant, on va faire une prime strictement identique, qui sera basée sur le cash flow. Et je vous promets que moi, j'aurai la même prime qu'un ouvrier, qu'un ingénieur. On aura tous la même prime. D'accord ? Et je dis, voilà, donc il n'a pu y avoir qu'un seul objectif et qu'une seule prime. Traduis ça.
OK. So, first, the metaphor of if you have to cross the river, make people dream about the other side. Instead of starting to immediately think about what do we have to do to cross this river, make them first start to dream about the other side and then see what comes up in the moment, in the creativity of the people. And then they will start creating something that will get them to the other side because they're dreaming of getting there at the other side. So what Jean-François is saying, the first stone that was created in this way was the freedom. And so you're not paid for the hour. You're free to work whenever you want. And that comes with happiness. And that was the first step. The second step was that he discovered in 1983 that there was a heat premium in foundry, which is silly because it is not because we give money that it is less hot. So common sense basically led him to consider this is stupid. And he gathered the whole factory and debated collectively all day. And we agreed, and they agreed in the name of common sense, to take what everyone had as a bonus the last 2 years, to put them in the salary and to introduce a single bonus identical for everyone, even Jean-François, based on the cash flow. And therefore, he also removed individual objectives for a single objective. So no individuals had individual objective. There was just one single objective that counted for everyone. And, right?
Yes, it's right.
Yeah. The common sense proved that freed everyone from the constraint of counting parts to be produced so as not to exceed the quota. So that it was not increased, the rates immediately increased by 30%, and the cash flow that had vegetated for 30 years to more or less 3% of the turnover was set to 20 to 25% of the cash flow, and the workers had up to 18 months of salary, which is incredible. So by replacing individual objectives to one single objective for everyone, they had immediate and amazing results.
Alors, l'objectif pour tout le monde, c'est chaque jour. Vous voyez, ce n'est pas dans un an, dans 6 mois, c'est chaque jour. Faire plus et mieux pour mon client, interne ou externe, pour rester dans mon village, pour mes enfants. Voilà. On a tous le même objectif.
Pourquoi est-ce que rester dans le village est si important, Jean-François?
Parce que si on ne gagne pas d'argent, on ne pourra pas rester en village, parce que c'est le but de toute l'entreprise, c'est de faire vivre des gens. Le but d'une entreprise, c'est de faire vivre des gens. Ce n'est pas de faire des produits. Les produits ne sont le moyen que de faire vivre des gens.
Mm-hmm.
Et nous, on veut rester en village. Si on ferme l'usine, c'est une catastrophe. On a été jusqu'à 700 salariés dans un village qui avait à peu près 1500 personnes.
Mm-hmm.
Vous voyez, c'est-à-dire que ça m'a permis aussi le fait de supprimer les primes, hein, de mettre en avant, revenir sur cet objectif-là. L'argent, ce n'est pas le but. Hein. Pour rester dans le village, eh ben, il faut être en trois équipes. Pour rester dans le village, il faut pas augmenter les prix de vente. Et pour rester dans le village, alors là aussi, alors, le message qui est important, ça, c'est la deuxième pierre du hein. La première pierre, c'était supprimer la référence au temps. La deuxième pierre, ça a été supprimer les primes et les objectifs. Et surtout, mettre un seul objectif chaque jour. Faire plus et mieux. Faire plus et mieux. D'accord ? Pas moins cher. Moins cher, c'est la conséquence. Faire plus et mieux pour mon client, interne ou externe. Pour rester dans mon village, pour mes enfants. Voilà, le but, c'est rester dans le village. Pour faire ça, ben, il faut faire plus et mieux. Pour faire plus et mieux, ben, on supprime les primes. Voilà. Et effectivement, les cadences ont augmenté de 30% immédiatement. Le cash flow est passé à 25-30%, et c'est là que les ouvriers ont 18 mois de salaire.
Mm-hmm. OK, so I'll translate again. So the first stepping stone was change the reference to time. You're not paid for the hour, but you're paid to create value. And the second stepping stone was to eliminate individual bonuses and objectives and replace them with one single objective for everyone, which is do every day better than the last. And do better to the goal is to, again, have your customers love us, because then the customer pays us 700 people in the company and we can stay in business and also we can live our lives in the community.
Alors, ça, c'est la deuxième pierre. La deuxième pierre. La troisième pierre, en discutant avec une ouvrière, je lui dis, mais je vous vois toujours faire la même pièce. Il y a longtemps, vous faites cette pièce-là? Elle me dit, 4 ans. Et depuis 4 ans, on ne sait pas régler la machine ni contrôler les pièces? Elle me dit, oui. Je dis, pourquoi le faites pas? Je peux pas, parce qu'il y a le contrôleur régleur, il y a le chef de ligne, il y a le contremaître. Et ça, c'est mon problème. Ils étaient une quinzaine sur la chaîne. J'en ai tous les 15. Et je leur dis, est-ce que vous savez tous régler et contrôler? Oui. Est-ce que vous avez envie de le faire? Oui. Et là, je me dis, si je ne supprime pas le contrôle expédition, ils vont tout faire pour bloquer les pièces. Je dis, si je supprime le contrôle expédition, ils me disent, faites-moi confiance. Et je fais le tour de l'usine et je propose ça à tout le monde. Hein? Et il y a 80% des gens qui me disent, je sais. Il y a 20% qui me disent, je sais, mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire tout seul. Alors, je prenais 2 personnes que j'ai vues avant, en disant, est-ce que vous voulez être les parrains ou les marraines de cette personne? Et c'est vous qui contrôlerez ces pièces et qui déciderez quand il est autonome. C'est-à-dire que j'ai supprimé le contrôleur, j'ai supprimé le régleur. Et là, ça a été la révolution au niveau de la qualité. En qualité, on n'a plus jamais eu de problème qualité. Je vous expliquerai après. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et on a gagné 1 heure en temps de fabrication.
Et vous avez gagné 1 heure de quoi?
Fabrication en temps, parce que toutes les 2 heures, il y a un contrôleur régleur qui passait pendant 1/4 d'heure pour contrôler les pièces. Et là, les ouvriers, très vite, dans mes tours d'usine, disent, pourquoi on contrôle toutes les 2 heures? Ça sort jamais des limites. Mais tu contrôles toutes les 4 heures. Pourquoi on contrôle toutes les 4 heures? Ça sort jamais. On n'a plus jamais eu de problème de qualité. Je vous expliquerai après pourquoi.
Mm-hmm.
Ça, c'était la troisième pierre du guet. Supprimer les contrôleurs et les régleurs.
Okay, I'm going to translate and then I want to know what Thomas is thinking, because Jean-François, Thomas was 40 years the CEO of a sugar production company. So I'm really keen on learning from him if he can match this with his experiences. So the third stepping stone was a conversation with his employees who were making the products in the factory, saying like, yeah, for 4 years, I've been doing the same thing over and over again. And in that conversation came up like, yeah, I'm that's every, they have a lot of control, people that can control the quality of what they're doing. And that started Jean-François thinking like, whoa, why should someone else come control? Why don't we have faith in the person making the products that they know what the standards of quality should be? And so he went around in the factory and he shared this idea. Like, what do you think? Do you think you would be able to end produce the goods and do the quality control and so on yourself? And there was 80% who said, yeah, I think I know I can do this by myself. And there was 20% who said, yeah, I think I know, but I'm not sure. I'm not feeling 100% confident to do this. Based on this dialogue with his people, he decided to eliminate quality control. So people having the single job of controlling the outcome of the work of others. And this was a complete revolution. And the results are amazing again, because you see, on the one hand, they never had quality problems again. And on the other hand, they won 1 hour of production time, because typically the controller would come every 2 hours and it would take 15 minutes. So that's if you have 8 hours in a day, you have 4 slots of 2 hours. 4 slots of 15 minutes is 1 hour, which was won. So the third stepping stone, eliminating the control or giving the responsibility to one person to control the quality of the work of someone else. Before we go back to you, Jean-François, I'm just checking in with Thomas. Thomas.
Yeah, Nick, it's wonderful. It's amazing. And what comes up in my mind, quality is a mindset.
Mm-hmm.
And I congratulate Jean-François because you have to have the right people for that.
Mm-hmm.
My take on that is that there are amazing stories of companies who have implemented this system of Jean-François, and the golden, the holy grail is you have to have the right people with the right mindset in order to introduce that. And for me, the magic word, Nick, is again trust.
Mm-hmm. Okay, back to you, Jean-François.
Oui, mais ça, on reviendra sur ce problème-là. Tout vient de la tête. Tout vient du patron. Si le patron n'est pas bon, ça ne marche pas. Ça peut marcher qu'avec quelqu'un qui est humaniste, qui croit que l'homme est bon, qui a du bon sens, du bon sens. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est logique. J'ai du bon sens. Ce n'est pas de la logique. D'accord ? Alors, pour finir avec la qualité, pourquoi on a remporté tous les grands prix qualité ? Pourquoi on n'a jamais eu plus de problème qualité ? C'est parce que les ouvriers réglaient les machines au nominal, alors que la structure qui est payée pour régler les problèmes, inconsciemment, par instinct de conservation, ne règle jamais au nominal. Il ne règle pas trop loin de la limite de tolérance pour que ça sorte. Parce que quand ça sort, on fait des réunions, on fait du contrôle, etc. Quand vous réglez au nominal, ça ne sort plus jamais. On n'a plus jamais de mauvaises pièces mauvaises. Tant que vous avez de la structure, toute la structure est gérée et payée pour gérer les dysfonctionnements. Donc la structure, inconsciemment, par instinct de conservation, qui est l'instinct le plus puissant, c'est plus puissant que l'instinct sexuel, se règle pas trop loin du nominal pour que ça sorte. Et là, ça les justifie.
Voilà, there's another wonderful word. C'est payé pour... There's another golden one.
Can you repeat it, Thomas? Because my connection was just for 2 seconds gone.
Jean-François, tu as dit le système, c'est les gens, ils sont payés pour régler le dysfonctionnement. C'est juste.
Voilà. Eh oui.
J'adore. It's another golden one.
C'est du bon sens. C'est du bon sens. Alors ça, c'est la troisième pierre du guet. La dernière, c'est que ça, c'est collectivement, on a réfléchi et on a dit comment on pourrait faire pour que les ouvriers soient plus en contact avec leurs clients. Et c'est pour ça qu'on a créé des mini-usines. Au fur et à mesure qu'on se développait, on s'est développé par Peugeot, donc on a fait une mini-usine Peugeot pour que les ouvriers ne travaillent que pour Peugeot. Puis après, c'est Fiat qui a découvert qu'on faisait des pièces extraordinaires, donc on a fait une mini-usine Fiat. Et on a fait plein, à chaque fois qu'on se développait, on a fait une mini-usine moteur électrique. Une mini-usine pour tout ce qui est les hôpitaux, etc., etc. On faisait des mini-usines. On a fait ça. Alors, chez nous, 700 personnes, on avait 15 mini-usines qui avaient à peu près 30 à 50 ouvriers ouvrières. Et dans les gens qui l'ont copié dès l'an 2000, hein, dès 99, il y a Mutsen Uther qui était le patron d'une usine, il y avait 6000 salariés. 6000 salariés, ils ont copié. Ils ont fait des mini-usines, mais là, il y avait 150 personnes, 200 personnes, vous voyez. La quatrième et dernière pierre du guet, ça a été créer des mini-usines pour que les ouvriers soient plus en contact avec les clients. Et alors, c'est les ouvriers, quand on a créé la première mini-usine, qui m'ont dit, c'est bien, mais ça serait bien quelqu'un qui dirige. Et c'est eux qui ont décidé de choisir parmi les ouvriers qui serait le chef. On l'appelle le leader. Et ça, ça a été copié dans le monde entier. J'ai vu à Timișoara, en Roumanie, une usine de 2000 salariés avec des mini-usines où le chef était coopté par les ouvriers. J'en ai vu au Japon, j'ai été copié à Singapour. J'ai déjà fait 1000 conférences en 35 ans. J'ai fait 1000 conférences et j'ai eu plein de mini-usines partout. On a copié. Il y a toujours un leader et quelqu'un qui est coopté. C'est eux qui choisissent entre eux. Après, dans la mini-usine, il y a un agent qualité spécifique. Il n'y a pas de service qualité. Hein. Il y a un agent qualité par mini-usine ou pour deux mini-usines. Et il y a un commercial. Mais il y a un commercial d'un autre type. C'est un commercial qui fait tout, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de prime, c'est important, ça, il est comme tout le monde. Hein, son objectif, c'est de créer des emplois. Ce n'est pas d'avoir des primes, c'est de créer des emplois. Ce commercial prospecte, décide du prix de vente, calcule le prix de vente, est chef de projet, négocie les machines, achète les machines et a son bureau au milieu des machines pour être responsable de la production. Donc, le commercial est responsable de tout, depuis la prospection jusqu'à la fabrication, jusqu'à la livraison, jusqu'à la logistique. Et c'est ce binôme ouvrier, leader commercial qui décide de tout, des augmentations de salaire, des congés, l'organisation, des formations. Mais tout est délégué à la masse. Il n'y a plus rien en centrale. En centrale, sur 700 personnes, on avait 9 administratifs et deux informaticiens. Et tout ce qu'on avait comme structure. Pas de service qualité, pas de service maintenance, pas de planning, pas d'ordonnancement, pas tous ces services qui ne servent à rien, quoi. Tout ça, c'était délégué aux ouvriers. Retenez ça, 700 personnes, 9 administratifs, 2 informaticiens, et c'est tout.
OK, I'm going to translate again. So, there was the comment of Thomas saying that it's all about quality, is all about mindset. And then Jean-François replied, yeah, everything starts with the leader. If you install a traditional structure, you basically enforce behavior that focuses on the dysfunctions and the people that look and what is going wrong. That's their, because it's their job. That's the result of your traditional structure. Whereas Jean-François is what he calls a leader from the bon sens, so the common sense, just plain common sense and logic. And he then mentions like the fourth stepping stone, and which was basically coming also out of the employees, was, yeah, we want to have more direct contact with our customers. And that's where the concept of the mini enterprise was created. And today, in a company of 700 employees, they have 15 micro enterprises. Every micro enterprise has about 30 to 35 workers. It's the team themselves that choose who their leader is. So it's not someone who's been promoted by the management. No, it's the workers themselves. They say, we choose you to be our chef. The leader is responsible for everything, for the salaries, for the trainings, for the coaching. Next to this, in the micro enterprise, there's also a sales role. So there's no separate sales department. There's in every micro enterprise, there's a sales role. And again, the sales role doesn't have a specific and individual same sales bonus plans. No, that's very important. It's just like everyone else. His goal or her goal is to create work. And this person has to do everything from prospection to delivery. And then lastly, Jean-François, as he's been doing this since 1983, he's been talking a lot about this in the world, and he sees this copied all over the world, from Japan to Romania. And in terms of overhead,
I can imagine.
And then lastly, Thomas, in terms of overhead, so in a company of 700 people, they have 9 administrative workers and 2 ITers. They don't have a maintenance team. They don't have a planning team. They don't have an HR team. They don't have none of that. All everything is delegated to the masses.
Okay. Now I have to say one thing. I will soon come with my famous question,
yes.
That's for sure. But that is not what is on my mind now. On my mind is only one thing. I want to see it. Jean-François, can I see it?
No, you cannot
can
see
it. Can I come? Where are you? Where is that? Amiens?
No, you cannot see. Why? I was employed. I have worked 47 years for the same owner, which was a great man, extraordinary. These men have done 30 different companies and employed 12,000 people. And this man is dead because he was 30 years older than I. And he had a cancer. And when he has his cancer, he sold everything except us, because we are developing the electric engine. And he says, thanks to the electric engine and Tesla, you can have a future extraordinary, okay?
Yeah.
And he's dead, and he has a grandson. And the grandson is silly. Until I was here, he do nothing. As soon as I go away, he died, he changed everything. He put some structure. and everything sold. It is a common rule. All these kind of company, but the freedom of the workers. Okay, when the boss, when the head go away, if you put in place a normal guy who has done some study, he put a general manager, he put some structure, he put, and all the good people go away. That means that one night go away, retire, and if I stop to take care about the company, 2014, 40. And I was, we do 100 million of turnover. Today they are doing 30 million. We were 700, they are 250. And they lose million and million each year. And that is a common rule. The other company where they were 7,000. The boss, which was a friend of me, go away. The change of shareholder, the shareholder put some structure inside, everything go down. You know, the problem is that all these companies are always bad on one woman or one man. Okay, and this man, alors cet homme ou cette femme, n'a pas d'ego, n'a pas fait d'études de management, mais surtout n'a pas d'ego, hein, a du bon sens. Mm-hmm. Et quand cette personne s'en va, on met une personne classique qui a fait des études, donc il rentre un chef du personnel, il crée des RH, il crée un bureau et tout s'effondre. Alors, il y a Poult, 1500 salariés dans les gâteaux. J'ai vu ça aussi à l'île Maurice, 550 personnes. Le patron s'en va, on met quelqu'un de classique, il fout tout en l'air et les meilleurs s'en vont.
Mm-hmm.
Donc on peut pas venir voir.
Mm-hmm. So Thomas, I think that's I'm going to translate and maybe that's already a first step towards the final famous or final
that
famous
question.
That
is the final question. I have the video out because I'm crying now.
Yes. So to translate the last part, what Jean-François is saying is that it requires a leader who has common sense and especially no ego, or is very aware of his own ego and is willing to set that aside to support and in favor of the company and his workers. And what typically happens is that those leaders are very successful in installing and implementing this model of freedom and common objectives and so on, which we have just discussed with Jean-François. But from the moment that the leader leaves, typically shareholders, they will put someone in place who has studied management and who comes in and they put some structures in the company and they start putting some reporting and some control mechanisms. And what you see is that in 1983, the rise of cash flow was amazing after 1 year. But 25 or 30 years later, when you replace the leader and you start installing structures and control systems again, the fall of the cash flow and the number of employees in your business is equally fast. And this didn't only happen at Favi, where Jean-François left in 2014, but he also saw it happening in other companies as well. And yeah, Thomas, I just give the word to you to ask our famous final question.
Yeah, but not that is our one. That is the biggest mistake.
Mm-hmm.
The biggest mistake, not the one realization, is there is no way back. You, the moment when you try to get the spirit of freedom again into the bottle, you are lost.
Mm-hmm.
You are doomed. And that is also, Nick, what we are seeing quite often. The moment when you think this is now a time where we have to reinstall control. This is now the time where we have to reinstall all these wonderful systems and bureaucratic nonsense. You are doomed.
Mm-hmm.
And that is for me the wisdom of the biggest mistake from Jean-François. Mm. I mean, not made
so
by Jean-François.
Maybe for Jean-François, we end every podcast episode with the same question. And the question is, what is, imagine I'm a CEO of a company. I've listened to your story. I'm fully inspired. I'm a full believer. I want to start doing this as of Monday. What is the biggest mistake I can make despite my good intentions? And so what we're basically concluding is that once you go in this journey and you have the successes of your freed organization, there's no way back, because if you go back to control, then the impact on your results will be equally bad. Do you agree?
Répète en français ce que tu as dit là.
Ah, d'accord. Alors, on termine chaque épisode de notre podcast avec la même question. C'est, imagine que je suis un CEO, j'ai écouté ton histoire, je suis inspiré, super énergique, enthousiaste, je te crois, et je vais commencer à faire la même chose dans ma propre organisation aussi. C'est quoi la plus grande faute que je peux faire comme CEO si je veux aller dans cette direction? Ça, c'est, on pose cette question à tous nos guests sur le podcast. Alors, et ce qu'on conclut, c'est que vous avez déjà répondu, c'est que dès que tu vas dans cette direction de liberté, d'organisation libérée, des mini-usines, tu ne peux plus retourner. Si à un moment, tu de nouveau installes du structure et du contrôle et tu vas de nouveau regarder à l'aide du fonctionnement de l'organisation, tout est perdu en fait.
En fait, je crois qu'il faut écouter son bon sens et arrêter la logique. Parce que de dire qu'on va supprimer les primes et les objectifs, ça va augmenter les cadences, c'est pas logique. C'est pas logique. De dire que si je supprime le pointage, on va gagner du temps de travail, c'est pas logique. Il faut arrêter la logique. Retenez une chose, Napoléon a créé une école qui s'appelle Polytechnique pour avoir des ingénieurs logiques pour faire des ponts et des routes. Aucun de ses généraux, aucun de ses maréchaux n'a fait Polytechnique. Napoléon disait, la stratégie s'arrête au premier coup de canon. Après, on s'adapte. La stratégie, c'est logique. La stratégie, je mets le dos au soleil, etc. On s'adapte, là, c'est le bon sens. Mm-hmm. Le bon sens, en période de guerre, c'est tu tires ou tu te couches. Si tu réfléchis, tu es mort. Mm-hmm. Donc, je crois qu'il faut, des patrons ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Les patrons ont peur du bon sens. Ils veulent se rassurer avec les chiffres. D'accord ? Ils veulent des chiffres pour les rassurer. Et souvent, la grosse faute aussi à ne pas faire, il ne faut pas chercher un modèle. Il n'y a pas de modèle. Allez écouter ceux qui font. C'est celui qui fait, qui sait. Encore une fois, je crois que tout ce que j'ai appris des Japonais, de Kawakita, de Shiba, de Matsushita. Matsushita disait, mais c'est vieux ça, en 1970, Matsushita disait, l'Occident va perdre parce qu'il s'adresse aux mains des salariés. On va gagner parce qu'on s'adresse à leur cœur et à leur cerveau. Voilà. Adressez-vous au cœur et au cerveau des gens, pas à leurs mains. Mmh. À leur cœur et leur cerveau, en permanence. Allez vers le subjectif. Allez vers l'affectif. Alors, l'erreur à faire, c'est... Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, la nature m'a ainsi faite que moi, j'ai peur de rien. J'ai fait 20 ans de parachutisme, de 1500 sauts. Je me suis construit deux avions. Et j'étais jusqu'en Corse avec mes avions que j'ai construits. J'ai peur de rien, moi. Le bon sens m'impose des choses, je fais. Des choses ne sont pas logiques, hein.
Mm-hmm. Okay, I'm gonna translate this, Jean-François, because I really love it and it resonates with a lot of things that we're also evangelizing. It starts with the biggest mistake you can make is to use logic. What Jean-François is saying is we need to unlearn to be logic and to trust in common sense. A lot of managers, they need a lot of numbers and reports to reassure themselves that they're doing a good job. And I love the example of Napoleon, who said, well, the strategy stops from the first cannon bomb that's being launched. And from then on, if you think too long, you're dead. So you need to be in the moment. You need to use your common sense if you want to survive. And that makes me think of a quote of Mike Tyson, who said, everybody has a plan until they get punched in the face. You don't need models. You don't need to copy paste anything. The only thing you need to do is common sense and talk with your workers and just listen to them. It's not their hands that make the difference. It's their hearts and their brains that make the difference. So go, have no fear. Go into the subjective. Go into the moment. Unlearn everything you've been taught at management school and just in the moment, be creative with the people you're doing your job with.